Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, c'est une remise en question, un changement de cap de vie, mais très tôt dans la vie. Vous allez comprendre pourquoi, on y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Septi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lella, Rita ?
Très bien, je te remercie Yasmine. Merci à toi de m'accueillir. Et si moi je suis la femme d'aujourd'hui, toi tu es la femme de tous les jours.
Oh, donc, merci. J'adore. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Rita. Alors Rita Septi, je pense que toi tu es une amoureuse de l'humain en fait. Tu dédies ta carrière aux ressources humaines, à l'accompagnement des autres, mais en même temps, pas uniquement du volet, on va dire, technique et administratif, mais vraiment à travers tout ce qui peut rendre l'humain plus épanoui. Tu as notamment investi dans une formation en coaching, et ça, tu as finalement cette double casquette qui te permet d'accompagner l'humain à travers ton métier. Qu'est-ce qui fait que Rita, en fait, tu sois autant... que tu t'intéresses autant à l'être humain?
Alors, merci Yasmine, merci de ton introduction, ou en tout cas de ton regard sur mon parcours. Alors, tu m'as présenté en tant qu'amoureuse de l'humain et je ne peux que le confirmer. J'ai toujours été, depuis toute petite, fascinée et interpellée par les gens, par l'autre. Et cette volonté de comprendre l'autre, pour reprendre des termes peut-être de petite fille, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Donc voilà, ça c'est une question que je me suis très souvent posée depuis toute petite, et j'ai même le souvenir d'avoir posé la question clairement, quelquefois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
À des gens?
Donc pour reprendre, à des gens, oui.
Ouais.
Donc pour reprendre vraiment mes termes de petite fille. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a intriguée toute ma vie, et chercher ces réponses-là, tout au long de ma petite expérience de l'école, des copains, des copines, et puis c'est posé la question des études supérieures. Donc je voulais faire psychologie. Ça a toujours été mon rêve. Je voulais faire psychologie. Ça s'est pas forcément fait pour des raisons. J'ai eu mon bac en fait à 16 ans et demi. Donc c'était un peu compliqué pour moi et pour mes parents d'envisager d'aller à l'étranger à un si jeune âge,
ouais,
pour faire des études de psychologie. J'ai fait le choix de faire une école de commerce. Et je pensais plutôt faire une spécialisation en marketing. Et puis, il y a eu ce premier cours de ressources humaines quand j'étais en troisième année de business school. Et en fait, ce premier cours, au bout d'une heure de cours, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. C'est ça que j'ai envie de faire. On a très souvent entendu la fameuse phrase qui, à mon sens, est aujourd'hui totalement obsolète, et j'espère qu'on l'entend de moins en moins dans les organisations et dans le monde du travail. C'est ici, tu es au travail, ta vie, ce qui se passe dans ta vie, tu le laisses à la porte. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais à mon sens, ce n'est pas possible. Et c'est pas possible d'attendre ça des gens, en fait. Qui, aujourd'hui, est capable de séparer ce qui il est dans sa vie privée de qui il est dans sa vie professionnelle, à moins d'être schizophrène. Et là, on est plutôt dans des pathologies. Par contre, quand les organisations, aujourd'hui, on parle d'inclusion, on parle d'environnement de travail inclusif, l'inclusion, c'est pas forcément des nationalités différentes ou encore ailleurs, des genres différents, etc. Non, l'inclusion, c'est la capacité de l'organisation à inclure tout un chacun dans sa différence, dans son unicité et aussi dans sa différence.
Donc cet intérêt pour l'être humain, cet intérêt pour le chemin qui a fait que finalement de la psychologie, tu as étudié les RH, tu as intégré le monde de l'entreprise, mais tu ne t'es pas arrêté là puisque tu as complété, on va dire, ta formation avec une formation approfondie en coaching.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai démarré ma formation de coaching en 2015. Donc, j'ai fait un cycle de 2 ans à l'issue duquel j'ai été certifiée coach professionnelle. Et en fait, cette formation de coaching, elle n'avait aucun but, on va dire, de réorientation professionnelle ou quoi que ce soit. Mais en fait, cette volonté est venue à un moment de ma vie où, sur un plan professionnel, j'occupais un poste de responsabilité régional, enfin voilà, un poste de responsabilité assez, on va dire, assez important par rapport à mon âge et par rapport à mon expérience à l'époque. Et en fait, ce poste m'a fait énormément grandir et m'a donné l'opportunité vraiment de toucher de très près la complexité, parce que c'était dans un contexte de fusion-acquisition. Donc en fait, on avait vraiment deux cultures d'entreprise, deux entreprises qui mergeaient en fait. Mmh. Et donc beaucoup de complexité. Et alors moi, à l'époque, en bonne technicienne, en bonne experte, j'ai travaillé sur les procédures, j'ai travaillé vraiment tout l'aspect technique. Et on a réussi à mettre en place normalement des systèmes et des procédures qui étaient censés nous permettre d'avoir une forme de cohésion des équipes. Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui manquait à ça. Donc, j'ai d'abord entrepris à ma propre initiative un coaching personnel. Donc, j'avais ressenti le besoin de me faire accompagner parce que je ne me sentais pas forcément outillée comme il fallait pour accompagner au mieux l'organisation. Mmh. Et en fait, pendant ce propre travail de coaching personnel, j'ai compris que ce dont les gens avaient besoin dans une organisation, c'est justement cet espace-là. Et en fait, quand les gens viennent nous voir en tant que RH dans une entreprise, notre valeur ajoutée, ce n'est pas forcément de donner des solutions. Mais c'est plutôt c'est comment on écoute l'autre, comment on l'accueille. Et au lieu d'être pressé de trouver une solution, de répondre, de créer une procédure qui donne les réponses, etc., c'est d'abord comment est-ce qu'on accueille la personne, comment est-ce qu'on l'écoute, comment est-ce qu'on comprend d'abord la difficulté ou la complexité de ce qu'elle est en train de vivre, et puis comment l'accompagner de manière à trouver elle-même ses réponses. Pardon. Et en même temps, comment ça nous challenge, nous, en tant qu'organisation, pour réajuster, pour nous réajuster de manière à ce que la personne ou les personnes puissent trouver leur propre solution et trouver leur place.
Ok. Alors, donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre, c'est peut-être aussi de creuser avec toi, cette lucidité que tu as vis-à-vis de toi-même. Parce que quand tu dis, moi j'ai eu besoin d'aller de me faire accompagner pour comprendre et ensuite de creuser ça davantage avec des formations pour arriver avec une posture en tant que DRH, c'est que tu t'écoutes, tu sais ce qui va et tu sais ce qui ne va pas en toi. Et ça, c'est une grande preuve de maturité.
Alors, est-ce que c'est une preuve de maturité ou est-ce que c'est une preuve, on va dire, de... Enfin, j'ai envie de dire, c'est limite un devoir, en fait. Parce qu'on ne peut pas prétendre accompagner les autres si d'abord, on ne sait pas ce qui se passe en nous. Si on n'a pas d'abord un minimum de lucidité, si on n'a pas d'abord conscience de ses propres croyances, de ce qui se passe d'abord en soi. Mmh. Et en fait, pour revenir justement à cette petite fille qui avait besoin de comprendre ce qui se passait dans la tête de l'autre, je pense que la maturité, c'est effectivement le moment où je me suis rendu compte que qu'est-ce qui se passe chez l'autre, mais d'abord qu'est-ce qui se passe chez moi. Peut-être que pour certains, on se réveille un matin et puis on se dit tiens, j'ai envie de me comprendre. Ou pour la plupart, je pense que c'est aussi des épreuves de la vie. C'est un chemin difficile de s'arrêter un moment de sa vie et de tout remettre en question.
Alors, est-ce que tu as fait ça avant ta séparation ou après ta séparation ?
Alors, c'est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que mon propre cheminement a commencé et c'était à la fois... En fait, je ne me sentais pas à ma place. J'y avais un sentiment il y avait un sentiment de quelque chose qui manquait, ou en tout cas qui faisait que je ne me sentais pas forcément à ma place, ou en tout cas à la place que je voulais. J'ai toujours eu une vie, très, très intense. Comme je t'ai dit, j'ai eu mon bac à un peu moins de 17 ans. J'ai fait mes études, j'ai fini mes études, je me suis mariée, j'ai commencé à travailler à la fois, donc je venais de me marier, je venais de commencer à travailler. J'ai été enceinte très rapidement, donc j'ai eu mon premier enfant à moins de 23 ans. J'ai toujours été extrêmement exigeante envers moi-même, donc je voulais être partout. Justement, ce fameux schéma d'imperfection, ce besoin, d'être parfaite, en tout cas l'illusion de pouvoir être parfaite partout, ça crée énormément d'exigences envers soi. J'ai aussi, en parlant de carrière, j'ai eu accès à des postes de responsabilité très rapidement. Et en fait, j'ai eu mon deuxième enfant trois ans après mon premier enfant. Donc en fait, à 26 ans, j'avais
toutes
un poste
les cases,
de responsabilité.
En fait.
Voilà. Ouais. J'étais DRH régionale. Je travaillais énormément. J'avais beaucoup de déplacements. J'avais deux enfants en bas âge. Et j'étais aussi épouse. Et en fait, j'avais besoin d'être partout.
Pardon, Rita, mais est-ce que tu étais fatiguée?
Alors, je ne me rendais pas compte, en fait, de la fatigue. On se rend compte qu'on est fatigué qu'au moment où on arrête, où on est forcé d'arrêter. Ou en tout cas, quand notre corps, à un moment, nous montre que ça ne va pas. Et moi, malheureusement, j'ai dû passer par là pour comprendre que ça n'allait pas, que j'étais au bout vraiment de toutes mes limites. Et que je ne savais non seulement pas m'arrêter, mais que je ne savais pas ralentir non plus.
Et tu as eu quoi exactement?
Alors, ça a été des problèmes de peau.
D'accord.
En fait, ça a été des problèmes de peau, de l'urticaire, donc des allers-retours, des examens, des biopsies, de l'anapath, etc., etc. Et en fait, au final, alhamdoulilah, sur le plan organique, tout allait bien. Mais en fait, c'était une manifestation de mon corps. Pardon, c'était une manifestation de mon corps. Et en fait, moi, ça a été ça vraiment le déclic. Et à travers aussi la dermato qui m'accompagnait à un moment qui me disait, écoute, c'est du stress.
Et il faut faire attention. Et tu as accepté de te remettre en question? Parce que quand on est aussi à fond dans tout, comme tu l'as été, accepter qu'il faut revoir sa vie, c'est pas une prise de conscience évidente.
Alors, c'est absolument pas une prise de conscience évidente. Et c'est là où je me dis, alhamdoulilah, le bon Dieu fait les choses. Parce que moi, le coaching, pour moi, j'y suis allée, comme je te disais, avec une volonté vraiment de me... Je mets ça entre guillemets, de me perfectionner dans mon travail.
Oui.
Et en fait, ça a été le meilleur cadeau que vraiment j'ai pu m'offrir. Et je le dis encore parce que j'ai eu la chance de commencer ça à un très jeune âge. J'ai commencé ça à 26 ans. Et d'ailleurs, quand on fait les entretiens des cycles de formation de coaching, en général, on nous dit que oui, en fait, c'est à partir de 30 ans. Alors pourquoi à partir de 30 ans? Parce que sur un parcours classique, on a eu le temps de travailler, d'intégrer le monde du travail, de le comprendre. On a eu le temps, pour classique, d'avoir acquis un peu d'expérience de vie. Et en fait, moi, j'arrivais à 26 ans et avec ce besoin de faire du coaching, de m'outiller, de me comprendre et d'abord de le faire d'abord pour moi. Et c'était totalement détaché d'un quelconque objectif professionnel.
Absolument.
Et en fait, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé mon coaching. Dans le coaching, on doit se faire accompagner aussi en thérapie, donc parce que encore une fois, c'est pas forcément juste une preuve de maturité, mais c'est aussi de l'éthique. On a un engagement moral de prétendre accompagner les gens. On a besoin d'abord de nous faire accompagner nous-mêmes et d'avoir aussi clarifié ces zones d'ombre et qui vont nous permettre justement de faire de la place à l'autre pour pouvoir l'accueillir pleinement.
Et ça, c'était pendant cette période-là, c'était pendant cette période-là, pendant que ça n'allait pas vraiment.
Alors, ça n'allait pas vraiment, mais en fait, j'avais pas conscience que ça n'allait pas, en fait. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup, je m'occupais de mes enfants. Dans mon couple, c'était assez fragile. Et puis, en parallèle de tout ça, il y avait cette formation de coaching. Et en fait, la formation de coaching, c'était 3 jours chaque 3 semaines. Et moi, ces 3 jours chaque 3 semaines, ça devenait au fur et à mesure le seul espace où je me sentais à ma place.
C'est dur quand même.
Parce que, ouais, c'est dur. C'était dur et en même temps, c'était rafraîchissant. Parce que c'était aussi un espace qui permettait aussi de dire, en fait, si c'est possible, tu peux te sentir à ta place.
Oui, il y a un endroit où tu es à ta place.
Exactement. Ouais. Il y a un endroit où tu peux être à ta place. Ah. Et tu as la possibilité et tu as l'opportunité aujourd'hui de t'outiller pour créer cet environnement, ou en tout cas pour créer cet environnement autour de toi qui va te permettre d'être à ta place, que ça soit sur un plan personnel ou que ça soit sur un plan professionnel.
Mais tu l'as accepté, tout ça ? Études, boulot, direction importante, tu avais coché ces cases de la réussite sociale, mariage, enfant, etc. Mais tu arrivais à accepter de te dire, en fait, tout ce qui est normalement validé par la société ne me convient pas. Tu arrivais à cet âge-là, à 26 ans, alors que tu étais engagée dans cette réussite telle qu'elle est dictée par la société, de remettre tout ça en question. C'est très courageux, en fait.
Alors, j'ai commencé cette remise en question, elle n'a vraiment pas été simple. Et le fait d'admettre ça n'a vraiment pas été simple.
C'est ça.
Ça a été un cheminement. J'ai démarré mes formations de coaching, je crois que j'ai démarré à 26 ou 27 ans. J'ai fini, c'était 2 ans, donc j'ai fini à peu près à 29 ans. Donc ces 2 ans, il y a eu beaucoup de marchandage pendant ces 2 ans.
Marchandage avec toi-même, j'imagine.
Exactement, ouais, avec moi-même. Ouais. Parce que je voyais ce qui n'allait pas, je voyais ce qui ne m'allait plus. Je comprenais ce qui avait guidé mes choix et en même temps avec... ce qui est le plus délicat là-dedans, dans ce process-là, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Et quand on n'est pas forcément câblé comme ça, d'avoir de la bienveillance envers soi, c'est, je pense, là où l'accompagnement en thérapie et le processus de coaching m'ont énormément apporté. C'est comment développer cette bienveillance envers moi-même.
Ça voulait dire quoi au quotidien ?
Au quotidien, c'était beaucoup d'exigences. Et la capacité de voir beaucoup d'imperfections et de se reprocher ces imperfections. C'est-à-dire, tout simplement, se dire que tout ce qui ne va pas,
c'est de ma faute.
Ouais. Et que si aujourd'hui je ne suis pas satisfaite de ma vie, c'est que d'abord je suis ingrate parce que le bon Dieu m'a tout donné. J'ai le mari, j'ai les enfants... J'ai le super boulot et tu n'es pas contente. D'abord, comment tu oses ne pas être contente? Donc ça a été d'abord la première phase, c'est ça. Et qui pour moi était de l'ingratitude envers le bon Dieu. Et envers la vie, et envers mes proches, et envers tout. Et c'est là où le travail d'accompagnement est essentiel. C'est comment on développe cette auto-bienveillance. Et comment on peut observer son parcours avec de la bienveillance. On a un système de croyances, chacun d'entre nous a son propre système de croyances. Et ce système de croyances, on l'a composé, on l'a nourri. Et dans ces croyances-là, on a des croyances qui sont positives, des croyances ressources. Je vais y arriver, je vais réussir dans la vie, je vais être une superbe maman, je vais avoir un super boulot, donc c'est des croyances, la vie est belle, tout un ensemble de croyances positives qui sont en fait des ressources. Et puis, l'un ne vient pas sans l'autre, y a aussi les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est tout ce qu'on peut se raconter sur soi, sur les autres et sur la vie.
Alors, pendant cette période, est-ce que tu en voulais peut-être à ton entourage proche d'avoir fait de toi cette femme-là, à ce moment-là ?
Je pense que je n'ai pas vraiment eu le temps de leur en vouloir. Parce que comme j'étais accompagnée, aussi bien en thérapie qu'en coaching, mais surtout en thérapie. En thérapie, justement, quand on est bien accompagné, on nous évite de faire le procès de l'autre, en fait.
D'accord.
Parce que faire le procès de l'autre, c'est juste continuer à nourrir la colère.
Absolument.
Et la colère, en soi, c'est une émotion qui nous est nécessaire. Mais en fait, elle nous est nécessaire juste pour comprendre les choses. Mais remplacer la colère, au contraire, par le pardon. Et moi, je pense que on va dire que ma résilience, c'est ce qui m'a permis, alhamdoulilah, de vraiment d'affronter les choses et de les vivre avec sérénité et de développer ma résilience, c'est le pardon. Alors, je t'en parle, on n'est pas face caméra, mais je suis extrêmement émue en parlant de pardon. Parce que je suis, alors pas je pense, mais je suis persuadée que le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir à soi-même, c'est de se pardonner, c'est de développer le pardon pour soi et pour les autres, et envers les autres. Parce que quand on pardonne, on laisse place à beaucoup de belles choses. Alors que quand on reste enfermé dans sa colère, on ne se donne même pas la possibilité de passer à autre chose. Ouais. Et en fait, pourquoi je suis rapidement sortie de la colère envers l'entourage? Parce qu'en fait, d'abord, elle ne m'est pas bénéfique à moi. Et puis, c'est pas juste envers les autres. Et au contraire, c'est de développer, quand on développe la bienveillance et quand on développe l'empathie, c'est au contraire, c'est de comprendre d'où vient l'autre aussi.
Absolument.
Parce qu'en fait, notre entourage nous a donné la meilleure version de lui-même. Parce que notre entourage, il nous a donné ce qu'il a reçu aussi. Et à notre tour, même quand on fait, même avec tout ce travail sur soi, de thérapie, de remise en question, etc., etc., moi, je suis persuadée que dans mon quotidien aujourd'hui, il y a des choses que mes enfants vont devoir nettoyer aussi à leur tour. Souvent, je rigole avec les enfants, je leur dis qu'elles ont un compte épargne pour leurs études et un petit compte épargne aussi pour leur thérapie.
Pour leur thérapie.
C'est de faire la paix, en fait, avec ça. C'est que, en fait, quoi qu'on fasse, on restera imparfait.
Ouais. Eh bien, Rita Sebti, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Et merci à toi, Yasmine, d'être notre femme de tous les jours.
Merci infiniment.
Parce que tous les jours, tu accueilles des merveilleuses femmes pour les faire parler, parce que tu fais parler des femmes, mais tu les fais aussi écouter par beaucoup de gens, que ce soit des femmes et des hommes. Et ça apporte beaucoup de bien et de réconfort à ceux qui parlent, mais aussi à celles et ceux qui écoutent. Donc, merci à toi.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.